Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Faut commencer par un jeu. On commence par quel jeu ?
On va commencer. On fait avec une voyelle et le dernier qui arrive plus à dire un nom d'animal qui commence par la lettre, et ben c'est lui qui dit qu'il a perdu.
Choisis la lettre, Guillaume.
V.
Non, vas-y.
Vipère.
Une lettre.
Perdu. Allez.
Verge.
François.
Moi j'avais
toi qui commence.
J'avais volaille.
Ah ouais,
j'avais
ça marche, 20.
Hein. Verge. Un bel animal.
Verge, c'est une petite souris.
Non, allez,
François, t'as perdu. C'est toi qui commences, je lance verge. Le générique.
La fabrique. Le podcast qui parle de création avec les créateurs. Présenté par...
Et les créatrices.
Ramzi Assali, Juliette Arnaud et François Audouin. Saison 2.
Épisode ?
Épisode 1.
C'est dingue, hein. L'été est passé, t'as pas progressé.
Attends, c'est mieux quand même.
Là, j'ai dit contre, tu perds toujours les jeux de début.
Ouais, et non, ça vous
l'avez fait. Ça, c'est bien que ça reste de la sorte.
Non. C'était pas évident, hein, quand même.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, ouais. Le podcast consacré à la création. Saison 2 avec Juliette Arnaud.
Bonjour.
Bonjour Juliette. On va rappeler qui tu es pour ceux qui découvrent le podcast sur la saison 2. Peut-être. Ah. Est-ce que tu peux nous dire ton métier, tes métiers?
Une vache.
Miss
une vache,
France.
Tout simplement, une vache.
Miss France 1987.
Ah oui.
Une vache.
Non, je voulais dire une vache, ça commence par un V.
Ah oui, il y avait une vache, mais j'avais dit veau, donc de toute façon, ouais. Je ne te l'aurais pas accordé.
Okay.
Oui, il fallait qu'on termine cette histoire.
Allez-y.
Donc Juliette Arnaud,
je voulais pas dire que t'étais une vache.
Eh bien, enfin, je travaille à la radio.
Comédienne, scénariste, écrivaine, voilà. Chroniqueuse radio.
Voilà.
Et voilà, on a fait le tour.
Ouais.
François Audouin.
Oui.
Bonjour François.
Bonjour.
Réalisateur radio,
ouais.
Scénariste, auteur,
oui.
Et quoi d'autre ?
Comédien.
Comédien, oui,
aussi.
Principalement, comédien. Et moi, Ramzi Assadi, auteur, voilà,
auteur de blagues,
de blagounettes,
un petit peu de théâtre dans la jeunesse quand même.
Oui,
il y a des vidéos,
tout à fait.
Bon, voilà.
Cherchez. Vous pouvez chercher, vous trouverez.
Alors, oui.
Et notre invité pour cette saison 2.
Encore lui, mais franchement, c'est l'enfer, il est là tout le temps.
comme notre invité pour la première de la saison 1, Guillaume Meurice. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, on a réinvité parce qu'on s'est dit que la première fois, bon, déjà, c'était vraiment un très bon épisode.
Je pensais que tu allais dire,
oui,
alors, c'était tellement nul.
Alors, pour le coup, je l'ai réécouté, il est très très mal mixé.
Oui, mais
il
d'accord.
Vraiment, c'est pas
sur
très
la
agréable
forme,
à écouter.
Voilà, sur la forme, c'était naze.
Au casque ou machin.
Sur le fond, vraiment, c'était
naze. Non, c'était intéressant.
Mais on s'était arrêté au début de Guillaume.
C'était surtout, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'écriture de romans.
Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé.
Non, de livres.
De livres,
parce que finalement,
oui.
De romans,
oui, c'est vrai.
C'est ce qu'on se disait la dernière fois, finalement, de romans, ce qu'on appelle purement un roman, il n'y en a qu'un. Les autres, ce sont ou des récits, ou des...
Ah, bah, c'est ce
Cosmé,
que...
Cosmé, 2018.
Cosmé, pour toi, c'est un roman?
Ouais, parce que c'est romancé quand même.
Ah,
Ouais. C'est un récit de vie de sa part de faits réels, basé sur des faits réels.
Ah, alors
mais évidemment, c'est romance.
Ok, juste, très bien.
Vous pouvez expliquer pour ceux qui n'ont pas lu Cosmé ce que c'est.
Cosmé, déjà, c'est ton premier livre, c'est ta première publication.
Ouais, ouais. Tout à fait. Je pensais que tu allais faire une chronique sur Cosmé.
Pas du tout. C'est pas encore un classique. C'est dès que ce sera un classique.
Quand ça sera un
donne-moi classique. 50 ans.
C'est un récit de vie qui part de la vie d'un ami à moi qui était mon régisseur à l'époque où je jouais dans les toutes petites salles au théâtre populaire du Renitas dans le 20e, qui était à la fois régisseur et poète. Et clairement, bon, il le sait maintenant, il était meilleur poète que régisseur. Et en écrivant de la poésie, il a trouvé un sens de lecture, on va dire, un peu, quelque chose un peu caché, dans un poème de Rimbaud qui est mythique, qui s'appelle Voyelle. Et en discutant avec lui à la fin des spectacles, je me suis longtemps demandé comment l'aider à un peu, on va dire, protéger cette découverte. Or, ça n'existe pas dans le droit français. Découverte littéraire, ça n'existe pas. Donc,
c'est pas comme un trésor.
Exactement.
Il y a des règles très précises.
Ni comme, je sais pas, la découverte d'une particule.
Qu'est-ce que t'entends par protéger sa découverte?
Bah, qu'on se
dire,
dise.
C'est lui qui a découvert ce truc-là. Okay.
Exactement. Ouais. Et en discutant avec lui. Et puis après, ça a duré longtemps, parce que ça devait être en 2010, 2011, quelque chose comme ça. Et puis le livre est sorti en 2018. Mais quand j'ai commencé à bosser à France Inter, j'ai eu pas mal de contacts avec des maisons d'édition qui voulaient à chaque fois faire des recueils de chroniques. Donc je disais à chaque fois non. Et une éditrice avec qui j'ai discuté à Flammarion m'avait dit « mais t'as pas autre chose ?» Et je lui ai raconté cette histoire. Elle m'a dit « vas-y, banco, écris-le, ça m'intéresse. »
Et toi, le fait d'écrire l'histoire, enfin son histoire, ça t'a pas paru... c'était totalement différent d'écrire une chronique ou écrire autre chose. Comment t'en es... tu t'es senti capable tout de suite de le faire?
Ouais, alors j'ai pas trop de complexe.
Alors,
j'ai pas de complexe d'infériorité ni de supériorité, donc je considère que tout le monde peut faire les choses, il suffit de les faire. Évidemment, il y a un contexte sociologique, mais je pense qu'on va pas partir là-dedans dans la discussion. C'est-à-dire on parlait de ça la dernière fois, de se sentir autorisé à faire les choses. Ouais. J'ai aussi grandi dans la presse, dans les écrits, etc. Donc oui, il y a un terreau.
Dans une maison où il y a des livres.
Voilà, donc évidemment, il y a un terreau fertile à ça. Donc mais j'ai essayé quoi. J'ai essayé. Je me suis dit, il avait une vie intéressante. Il y avait évidemment pas que ce secret à raconter. Il y avait toute sa vie qui était assez passionnante.
Ce régisseur s'est mêlé de l'écriture ou t'as accompagné là-dedans?
Il m'a accompagné, mais il s'est pas mêlé de l'écriture, non. S'est pas mêlé de l'écriture, mais il m'a accompagné. Je lui ai fait accoucher sa vie. Je lui ai posé plein de questions. Alors, il y a des choses évidemment qui dataient, il ne se rappelait plus exactement. C'est pour ça qu'il y a des parties romancées, il y a des parties qui ne sont pas dans l'ordre, qui ne sont pas chronologiques, parce que pour le récit, parfois, pour le rythme, tu es obligé de changer des choses. Et ça permettait donc de raconter sa vie et aussi de, entre guillemets, je ne sais pas, protéger. Que pour l'éternité, le premier mec qui a découvert ça, c'est Cosmé Olvera et c'est dans ce livre-là.
C'est marrant parce que toi, Guillaume, tu ne crois pas spécifiquement à la postérité, c'est jamais une idée qui ça donne. C'est pas un...
Moi perso,
ouais.
Moi en tant que Guillaume Meurice, non, je m'en fous un peu. Mais là, il y a même pas tellement d'idées de postérité. C'était plus un.
Protéger une découverte littéraire, c'est un peu ça.
Mais c'était pour mon pote, c'est lui qui y tenait.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est rigolo parce que en ce qui te concerne, toi, j'ai pas l'impression que concept de postérité, ça t'intéresse même deux secondes.
Mais même le concept de sens caché dans un poème de Rimbaud, en vrai, je m'en foutais. Hein. C'est juste que l'aventure de faire ça avec mon pote me plaisait à fond. Okay. Alors, si vous voulez les détails, avant de faire ce bouquin, le rimbaldien à dire de référence en France, c'était Solers, Philippe Solers. Mmh. Et il était venu dans une émission de Frédéric Lopez à laquelle je participais à l'époque, réécouter l'épisode 1 qui est toujours accessible. Et à la fin de l'émission, le poème Voyelle, c'est vraiment le poème des rimbaldiens. Quoi. C'est hyper... nébuleux, on ne sait pas exactement, il y a plein d'interprétations.
Tu peux dire que c'est confus.
C'est très confus, on ne sait
pas. C'est pas le bateau ivre ou à Ougourou,
il
y a quand même
des images là, il y a
des images fortes là, vraiment, c'est nimp.
Et donc je vais voir Solers à la fin et je lui dis bon, je pense que vous recevez 4 ou 5 courriers de personnes qui vous disent j'ai trouvé le secret de ce poème, mais là, bon voilà, moi j'ai un gars, c'est un pote, il est régisseur de théâtre et il avait pris son calepin, il a dit ok, je veux bien le rencontrer, il avait pris rendez-vous avec lui. Et donc j'ai fait rencontrer mon pote, j'ai fait organiser la rencontre Philippe Solers et mon pote à Gallimard. Donc Solers me dit rentrez, moi j'ai dit non, moi c'est pas mon histoire. Donc je les ai laissés les deux et je suis allé boire un coup au café en bas. Et quand Cosmé il est revenu, il m'a dit en fait il voulait juste savoir ce que j'avais trouvé et basta, il s'intéressait pas du tout à moi. Donc Cosmé lui a rien lâché. Et donc il y a eu toute une aventure. Moi ce qui m'intéresse dans ce bouquin là, c'est au-delà du fait que j'ai kiffé l'écrire, c'est l'aventure que j'ai vécue avec mon pote, parce qu'après on a fini quand même, donc ça je vous raconte le début puis la fin, on a fini à Charleville-Mézières, dédicacé dans la maison de Rimbaud. Enfin, moi ça me faisait plaisir de voir mon pote là. C'était chouette. Et puis le manuscrit de voyelle, donc il y en a un seul et il est à Charleville, il est à la médiathèque. Et le gars il nous a dit bon bah je vais vous le montrer, je vais vous le sortir quoi. Et confronté à mon pote ce manuscrit là, c'était, ouais, pour moi c'était ça qui était chouette. Je me suis dit tiens, bon bah voilà, j'ai réussi un truc chouette.
Et est-ce que, pardon Ramzi, vas-y, mais vas-y. Est-ce que le moteur créatif de cette aventure là c'est pas justement ce truc de est-ce qu'on peut pas résumer à ça le fait de il y a une espèce d'aristocratie littéraire qui pense, qui fait des études, qui analyse, et en fait ton pote il est en marge de tout ça, et qu'il y a presque certainement un moment où on se fout de sa gueule, on se fout de je sais pas, j'imagine de ce que vous faites, on vous dit que vous êtes nul, et puis il y a aussi peut-être cette envie de comme dirait Aymeric, mettre un coup de pied dans la fourmilière littéraire, non ?
C'est une expression très spéciste. Ouais. Oui, il y a clairement de ça. Il y a clairement de ça. Moi, ça me faisait kiffer que ce soit un régisseur de théâtre qui a vécu la moitié de sa vie au RMI, à l'époque, ça s'appelait le RMI, qui trouve ça, alors que les plus grands spécialistes de Rimbaud cherchent ça depuis des années. Et alors, ça a provoqué des trucs de fou, hein, parce qu'on s'est fait insulter. Les Rimbaldiens en France, je ne sais pas, ils sont 50. C'est quasi que des gars, et donc ils sont quasi...
Ah bon ?
Ouais, et ils sont tous bon, la moitié morts, et surtout hyper agressifs. On s'est fait complimenter par la moitié et insulter, mais insulter par l'autre moitié. Des gens qui ont écrit des articles en disant qu'on était vraiment des merdes. Il y a un mec avec qui je devais bouffer, parce que pour le coup, je commençais à être un peu le mec de France Inter, ça. Donc je lui avais écrit, un autre spécialiste, je ne sais plus son nom d'ailleurs. Il venait de mon coin, de Haute-Saône, etc. Donc on avait ce truc-là, il me dit « Ah ouais, en plus vous venez de Haute-Saône, ça m'intéresse et tout. » Et quand on a sorti le bouquin, il n'a plus voulu manger avec moi. Ça, ouais, je veux dire, c'était pas ma guerre en fait.
Et c'était quoi leurs explications alors à ces gens qui vous insultaient et qui...
Qui vous disaient « C'est pas parce que vous dites c'est nul. »
C'était une supercherie, ouais. Ils estiment... Ok.
Que c'était n'importe quoi...
Avec quoi,
et le mec avait écrit, en fait, j'ai appris après que le gars avait écrit tout un livre pour dire arrêtez de chercher dans voyelle, il n'y a rien à trouver.
Ah ouais.
D'accord.
Ouais, il a mal pris, je pense.
Donc lui, sa théorie, c'était ça. Mais toi, donc tu penses qu'il y a une vraie théorie et que Cosmé l'a trouvée ?
C'est pas une théorie, en fait. Alors, je ne vais pas la dire, hein, parce que sinon c'est
gâché,
mais c'est pas une théorie, c'est une clé de lecture, en fait.
Oui, mais toi, tu penses que Cosmé l'a trouvée ?
Ouais, c'est une des clés, c'est sûr que c'est ça, oui. Okay. Parce que c'est mathématique, c'est très facile à vérifier. Et Rimbaud, c'est un petit con, hein, quand il écrit ça, il y a 17 ans. Il cache des... on sait déjà qu'il cache des trucs dans d'autres. Il y a d'autres sonnets où il cache des choses. C'est un mec qui aime bien défier l'autorité. Enfin, on connaît un peu la personnalité du gars, quoi, qui a été assez étudié en long, à large et en travers. Donc, c'est pas étonnant quand tu connais le truc. C'est pas étonnant, mais c'est plutôt. Enfin, tu te dis, ouais, c'est un petit con. Un petit con assez productif, assez prolifique, mais un petit con quand même.
Un petit Guillaume Meurice, quoi.
Et sur le processus d'écriture, on a eu pas mal d'invités qui nous racontaient un peu leur rituel. Isabelle Sorrent, elle écrivait le matin très tôt parce qu'elle est très matinale. Thomas Bidien, il avait besoin plutôt d'écrire le soir, après 21h, une fois que toute la famille est couchée, machin, lui c'est de... Voilà. Est-ce que toi, t'as un processus, t'as eu sur Cosmé, un processus particulier d'écriture ou aucun.
Alors, moi, j'aime pas les rituels.
Étonnant.
Je trouve que ça t'enferme. Si tu te dis, ouais, comme tu dis, j'ai écrit à 21h et tout, qu'il y a un pote qui t'appelle.
C'est que ton cerveau est... Tu sais que ton cerveau est plus frais à un moment.
Ouais, ça, j'y crois pas trop. En tout cas, pour moi, j'y crois pas trop.
Bah, après une
j'ai émission, jamais constaté ça.
Juste après une émission, par exemple, ou un spectacle. Remarque, non, t'écris parfois après ton spectacle, quand tu faisais des chroniques avec Charlie le matin.
Non,
mais peut-être que quand t'es un peu rincé, quoi, t'es... Non, il y a pas de.
Non, j'ai pas ça.
Ah, du tout.
En revanche, là, je suis sur l'écriture d'un nouveau roman et j'écris 5000 signes par jour depuis mi-août. Donc là, l'émission est enregistrée, on est début octobre. Et avec une discipline de nazi. C'est-à-dire que même quand je rentre à 1h du matin, je m'endors pas avant d'avoir écrit 5000 signes.
Pour quelle raison tu t'infliges ce truc-là?
C'est pas infligé, parce que je kiffe faire ça.
Oui,
c'est
oui,
comme si tu m'obligeais à jouer à Mario Kart.
Tu t'obliges à. Oui, même si. Il y a des moments où tu n'as pas envie de jouer à Mario Kart, mais tu t'obliges à le faire.
Il n'y a aucun moment où tu n'as pas envie de jouer à Mario Kart. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Non, mais là, il y a des moments où tu es fatigué, tu rentres de machin.
Mais non, mais je le fais toujours avec plaisir.
Oui, bon, voilà. Pour quelle raison tu le fais avec plaisir, de manière obligatoire?
C'est toi qui es employé avec une discipline de nazi. C'est pour ça qu'on se permet de te demander pourquoi est-ce que tu t'infliges ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu le mot nazi.
Je vais vous répondre. Parce que je voulais... Ça sature, non? Parce que je voulais essayer ça. Je me suis dit, tiens, essayons et voyons comment ça fait avancer l'histoire. Et je trouve vraiment ça fantastique parce que j'écris... Donc, 5000 signes, ça fait environ 2 pages, quoi, quelque chose comme ça.
Alors moi, je compte pas en signes, je compte en mots. Et donc, ça me paraît. Je suis incapable de dire 600 mots.
Je sais rien du coup. Dans l'autre sens,
je dirais que ça fait ça.
Ouais.
Parce que les signes pour les auditeurs ou les auditrices, je pense que c'est pas très. C'est plus confus que.
C'est un truc d'éditeur, c'est vrai. Bah, ouais. Un roman, ça fait genre 300 000 signes, on va dire, un truc moyen, quoi.
Toujours pareil pour les auditeurs. Ils voient à peu près la taille d'un bouquin.
Ils voient à peu près la taille d'un
bouquin.
Parce que si tu dis 300 000 signes sur un roman moyen, bah ça fait 5 000 signes, tu vois, c'est la proportion.
Moi, mais de combien de pages le roman?
Bah, tu vois à peu près.
Un roman de 150 pages.
Et ça fait avancer l'histoire. Et le cerveau, c'est un organe qui fonctionne tout seul. Donc, une fois que tu l'as mis sur un truc, moi, j'y pense dans la journée, sans être le nez sur mon ordi. Je note des idées ou des trucs que j'entends sur mon téléphone et ça me resserre le soir quand j'écris.
Oui, c'est un peu ce que vous expliquiez sur le premier podcast avec toi.
Ah, voilà.
Sur la chronique quotidienne,
oui,
qui est plus facile
qu'une
chronique hebdomadaire ou tous les 15 jours.
C'est vrai.
Parce que justement, tu as une mécanique qui se met en branle et qui.
Parce que c'est un muscle. Enfin, ce sont muscles qui est sollicité de manière régulière. Ils répondent beaucoup plus régulièrement en fait.
Ouais.
Et
surtout. Non, mais le truc des 5000 signes, moi je voyais ça aussi comme un truc de. Une obligation de rendement.
Non, pas du tout. Enfin, oui, de fait, c'en est une, mais. Ça facilite la chose parce que t'as pas besoin quand tu te remets dans ton truc de te dire attends où j'en étais, je l'ai en tête depuis mi-août, donc je me dis j'écris jusqu'à la fin.
T'as 5000 signes minimum ou tu...
oui minimum, ouais. Ça m'est arrivé de faire plus quand je suis dans le train, ouais. Mais ça fait avancer l'histoire et puis après je me dis j'aurai une grosse base, je relirai tout, je couperai. Moi je fonctionne comme ça, j'écris une grosse base et après je passe dessus jusqu'à ce que j'en ai marre.
C'est un roman. Ok. Non, parce que je rappelle aux auditeurs et aux auditrices qu'il y a longtemps, il y a des années de cela, avec Guillaume Meurice, nous avions régulièrement une conversation, à l'antenne même parfois.
Ça arrivait.
Où Guillaume nous expliquait qu'il voyait aucun intérêt à la fiction.
C'est faux, j'ai jamais dit ça. Ça, c'est vraiment de la mauvaise foi. Et je m'y connais. J'ai toujours dit, je suis moins sensible à la fiction qu'aux documentaires ou aux essais.
Ce dont j'ai l'impression, de manière extérieure, c'est que ta position et tes goûts ont évolué entre...
J'espère, oui. Mais pas là-dessus. Non, je suis toujours moins sensible à la fiction. Là, je lis de la fiction, mais un peu pour voir comment les autres, ils goupillent leur machin.
Ah bah oui, ça me semble...
Je me dis, tiens, d'accord, il fait comme ça, c'est nul. Ou alors je fais, ah le bâtard.
Dumas, c'est pas mal finalement.
Mais
Dumas.
Exactement comme quand j'ai commencé le One Man Show, j'allais voir des One Man. Enfin,
ça me semble logique.
Il y a des trucs où je me disais, putain, c'est génial, j'y arriverai jamais. Et des trucs où je me disais, ah ouais, lui il en vit.
Mais...
Bon, je pense que ça va aller alors. Il y a toujours les deux quoi.
Mais alors par exemple.
Quand tu fais. Ah pardon. Vas-y, Juliette.
Non mais en ce moment par exemple, qu'est-ce que tu lis comme auteur de fiction?
Moby Dick, parce que c'est une histoire qui a trait au monde de la mer. Donc ça sert aussi pour enrichir le vocabulaire, l'imaginaire, toutes ces choses-là. Enfin, je ne sais pas comment tu décris le grand large alors que tu es dans un train Paris-Rennes qui roule à 300 km/h au milieu de la forêt. Donc ça me sert à ça. Ouais. Okay. Puis je kiffe, en vrai, ça me fait kiffer d'écrire, de lire. C'est que du plaisir, je dirais.
Mais d'ailleurs, quand tu fais de la fiction, généralement, elle s'appuie sur des trucs réels. Le Cosmé, du coup, c'est une histoire inspirée de ton pote. Le roi n'avait Paris.
C'est un personnage qui a existé, je m'écartais quand même réel.
Tu t'ancres toujours une histoire.
Toutes les fictions.
Il n'y a pas de fiction qui soit.
Il n'y a pas toujours des fictions où les personnages ont existé.
Non, bah là, pour le coup, c'est la première fois.
Là, en l'occurrence, les deux romans, les personnages ont existé.
Bah dans le troisième, non, il y a zéro personnage qui existe.
Oui,
c'est des animaux en plus.
Non. Enfin, il y en a, mais pas que. Non, je suis parti. Vous voulez comment j'ai goupillé ce roman-là, Rapidos. Je suis passionné par les orques.
Ah bon, les orques.
Et je voulais écrire un livre d'entretien avec des gens qui côtoient de près ou de loin des orques. Des scientifiques qui étudient le langage, des plongeurs, des gens, des photographes sous-marins, etc. etc. Et je me suis rendu compte assez rapidement en discutant avec vous notamment que les gens s'en foutent. On n'a vraiment rien à branler. Alors moi j'étais là, mais si, c'est passionnant, ce qui donnait assez rapidement des discussions de dîner de cons. Ben oui, mais raconte-nous les orques, Guillaume, on t'invite mercredi soir. Et donc le même principe que quand tu veux faire avaler un médicament à un chat, tu le mets dans la pâtée. Je me suis dit, bon, ben, les gens, ce qu'il leur faut, c'est des histoires. On va leur raconter, il était une fois... Jean-Jean à la plage.
Il s'est mis à la fiction parce qu'on est des cons. mais qu'il est gentil.
Il est gentil, hein. Voilà, c'est de la générosité.
Mais quelle bienveillance.
Je me plie volontiers à votre inclination naturelle, à la fainéantise et au manque de curiosité. Non, c'est pas vrai. En plus, je trouvais ça plus rigolo à écrire aussi qu'un simple livre d'entretien.
Ah!
Non, mais je kiffe de prendre tes petits personnages. Tu fais gna gna, et machin, ils rencontrent machin. Et tout. Ça, c'est assez marrant. À faire. Donc j'ai écrit une histoire et mon angle était aucun orque ne s'est jamais attaqué à l'humain à l'état sauvage, aucune orque n'a jamais buté un être humain. Et là ça commence par un mec qui est retrouvé sur la plage éventré avec des blessures et ça, il n'y a aucun doute, c'est une orque qui l'a buté. Ça se passe à Tarifa en Espagne en ce moment même où des orques s'amusent à défoncer des gouvernails de bateaux, donc il y a quand même un peu un ancrage dans le réel, mais alors ça pour le coup c'est arrivé après. Je me suis dit tiens, je vais le faire là puisque c'est là où ça se passe. Voilà.
Ok.
Et pour le moment, les scientifiques, de ce que je sais, savent toujours pas précisément.
C'est un jeu, a priori.
Voilà.
Un jeu.
Mais non, parce que tout de suite ça a fait naître des légendes urbaines.
La nature se rebiffe.
Il y avait une vieille orque qui avait déjà subi des choses affreuses et qui était en vendetta. Et tout ça, c'est. Ça pour le coup, c'est le genre de fiction qui sont. Que les êtres humains fabriquent et qui sont haïssables, je trouve.
Oui, je suis d'accord.
Parce que dangereuse, parce que en fait, c'est plus une forme de propagande, pas fasciste, mais c'est reste une propagande qui va dans le sens d'un récit qui est toujours le même en ce qui concerne les animaux.
Oui. Ça fait du clic si tu mets sur ton article vieille des orques jouent avec des bateaux dans le détroit de Gibraltar, on s'en fout. Alors que si tu mets l'orque Gladys, je crois ils les ont appelés, se venge.
En plus, c'est non d'une de mes grand-mères. C'est non.
Voilà.
Et la fiction sous forme de roman, ok, mais est-ce que tu as envie de faire de la fiction sous forme de série, film
Je suis en train d'écrire aussi je scénarise une BD.
Ah, donc une BD aussi, ouais. Ok.
Et ça, c'est assez fun à faire. Je fais ça avec Sandrine Deloffre, qui est une illustratrice que j'adore, qui me fait vraiment marrer. Et on a écrit une BD qui s'appelle La Révolte sans précédent, qui est l'histoire d'une révolte sans précédent. Alors, c'est des animaux qui font de l'écoterrorisme, qui se réunissent dans une clairière en mode FLNC.
Il y a une thématique.
Là, en ce moment, je suis sur une thématique animale. Et on rit, mais on rit vraiment, vraiment beaucoup. Et on se dit que si les gens, ils aiment pas... Vraiment, on en a rien à foutre.
Globalement, c'est un peu ton leitmotiv général dès que tu fais un truc.
On a plein de personnages.
Et alors, comment ça se passe concrètement, ça, l'écriture? Moi, je ne suis absolument pas à l'écriture.
Bah, moi, c'est la première fois.
BD. Tu écris ce que tu veux voir ou tu.
Ouais. Enfin, en fait, j'écris un peu comme un scénar. Et moi, je suis nul. J'arrive pas, en tout cas pour l'instant, à penser en images, à découper. Des cases, alors que Sandrine, évidemment, c'est son taf, donc elle me dit ça on peut le mettre en deux cases, ça on peut le faire déborder sur la case d'après. Donc en fait, j'écris comme un scénar, machin, le renard arrive.
Et après, c'est comme, vraiment comme pour un scénario, après on fait un découpage.
Ouais, et après on se fait une visio, parce qu'elle habite à côté de Lyon, on se fait une visio et elle me dit ok, cool, bah ça je peux le mettre, comme je te disais, en une case, en deux cases. Et pour l'instant, là, c'est un truc pour Dargo, Matin Journal, qui va être sur Instagram. Et comme on a plein d'idées, on a dit, mais nous, on voudrait en faire une BD, un livre qui sort à la FNAC. Quoi.
Bah ouais.
Et ils ont dit, ok.
Trop bien.
Ouais.
Juliette ?
Et ça,
vas-y.
Pardon.
Vas-y.
Ça, le fait que Sandrine, donc elle pense en images, chose que toi, tu n'as pas.
Bah, disons, elle pense en découpage, quoi.
En découpage, ouais, ouais, c'est le principe
la mise
des gens.
En scène, quoi.
C'est souvent le principe des gens qui pensent en image, c'est-à-dire qu'ils pensent. Je crois que François, tu
Ah, François, t'es là.
Ils pensent.
Moi,
alors,
j'écoute.
François fait aimablement sa sieste.
Hein, non, j'écoute, c'est hyper intéressant. Mais comme c'est des livres avec des mots et que moi, je lis pas.
Mmh. Bon. Non, mais tu penses en
termes
de
cadre. Il y a des images, là,
c'est
une BD.
Ah, ok.
Tu penses en termes de cadre et puis après de plan ou
et aussi, oui, et de point de vue
et après
dit, là, on
de
peut
où est-ce
le
qui regarde
plan.
Voilà
exactement
et puis, alors tu là, poses moi, tout le temps la question de qui regarde mais en littérature c'est aussi est-ce que j'ai fait ça
oui
c'est aussi la
elle a fait le geste cliché du réalisateur
avant,
avec,
c'était ça,
avec les deux doigts là. Je
ouais,
je,
parce
je,
qu'ils
fais,
font
je
tout,
mets la caméra
toutes les
ici,
fois que j'ai été sur un tournage à tous les endroits où je pouvais être. Et ouais, toujours un moment où tu fais non, mais la caméra, ouais. On la met où ? Elle regarde qui ?
Elle retombe, on la met.
Non, mais ça pour le coup, c'est hyper utile parce que t'expliques à quelqu'un, on fait ce plan-là, en faisant le V pour montrer,
oui,
on fait ce plan-là contre champ,
en fait,
et tu fais ça, le plan large, et tout le monde a compris.
Ok, oui.
Je fais le peu.
Alors bravo, Ramzy, de mettre une ambiance.
C'est juste pour moquer de Juliette.
Je fais la police du cinéma, j'explique.
Voilà. Merci. Et donc, Sandrine, tu nous disais, elle pense en termes d'image. Comment, question au pif, comment tu imagines que c'est fait son cerveau et donc sa créativité non, mais dû à quoi? Est-ce qu'elle t'en a déjà parlé? Est-ce qu'elle l'a déjà évoqué? Comment est-ce que quelqu'un se retrouve à penser en termes d'image? Quand on a eu Thomas Bidguin, par exemple, on a appris qu'il a passé 10 ans de son enfance à aller au cinéma 3 fois par semaine.
Ouais,
parce
y a pas d'autre solution.
Parce qu'il avait une femme qui était ouvreuse au cinéma autour de lui. Dans le cas de Sandrine, tu penses qu'il y a ça aussi?
Bah, faudrait lui demander, mais je pense que oui. C'est, il faut lire, regarder ce que font les autres et puis
il faut y avoir
habituer
accès,
ton
donc.
Cerveau. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit moi je pense pas du tout comme ça, j'ai dit pour l'instant, parce que il suffirait.
Oui, ça peut,
c'est pas quelque chose d'inné, je veux dire. Forcément quelque chose d'acquis.
Non. D'acquis, bien sûr, mais après beaucoup de travail. Enfin, je veux dire,
avoir
passé, envie d'y passer du temps.
Ouais, c'est sûr.
Voilà. Et la photo, c'est bien la même chose aussi. C'est une affaire de cadre. C'est
bien
de penser
sûr.
En termes de cadre.
C'est un langage, quoi. C'est un autre langage.
Ouais.
Je trouvais ça super.
Toi, Juliette, quand tu as réalisé le film, Arrête de pleurer, Pénélope, c'est toi qui l'as réalisé.
Ouais.
Avec co-réalisé, voilà. Justement, quelle était ta part? Est-ce que toi, ta part, c'était sur le. Penser en image ou c'était
non mais c'était bien ça
principalement
le drame.
Les dialogues ou
non moi c'était ça le drame, c'est que en fait moi j'avais jamais pensé que ce truc dans ma tête et en termes de dialogue et je continue les dialogues continuent à me faire hurler de rire, tout le reste c'est pas du cinéma.
Dans le film,
il y a pas un parfait esprit, tu veux dire. Il y a pas
oui, il y a pas
une idée.
Il y a pas de. Moi, je pense que j'ai beaucoup de défauts, mais je fais des choses qui sont. On peut pas ne pas me reconnaître que je fais des choses typées.
Oui,
voilà.
Oui. On reconnaît ta patte quand tu fais quelque chose.
Je me suis fabriquée. Bon, à 50 ans, c'est un peu normal, mais ça y est, je commence à savoir à peu près. Nanana. Quand je me suis retrouvée à faire du cinéma, c'est un endroit que j'aime beaucoup, le cinéma, mais comme spectatrice. En revanche, c'est le moment, le matin même du premier jour, j'ai réalisé que.
Pour le coup, t'as réalisé.
Que, voilà, j'ai réalisé une seule chose enfermée aux toilettes quand 80 personnes sonnaient à ma porte en me disant c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai réalisé que je ne pense pas en images. Ça n'est pas mon langage. Moi, mon langage, c'est les mots et les mots. Et
parce que mots. Ça t'intéresse, moi.
Mais... Et les animaux aussi. Mais les mots.
Et le co-réalisateur,
co-réalisatrice. Elle était un peu plus, mais pas suffisamment, pas suffisamment pour que ça fasse un bel objet et pour que ça compense ma nullité.
Et aujourd'hui, est-ce que maintenant.
Est-ce que je referais ce
Ouais. Est-ce que tu referais un film, ça te brancherait de refaire un film en pensant en image justement?
Mais je pense pas que je pense toujours pas que j'en suis capable. Par contre, j'adorerais reco-réaliser un film avec quelqu'un cette personne aurait la passion de ça et on serait capable de bien en amont avant le tournage, au moment de l'écriture, grâce au dessin et tout ça, qu'on arrive à faire que les deux mondes se
ça, c'est difficile.
S'intègrent.
Et sur Pénélope, pourtant, c'était écrit depuis longtemps. Donc, il n'y a pas eu un passage, justement, à se dire comment on transforme ça en...
Mais ça fait... En fait, c'est comme passer de... Le cinéma, moi, ça m'a fait l'impression de passer de la 2D... à la 3D sans avoir de formation. Il y a trop de choses en même temps à penser. Il y a toute la technique qui est déjà un bordel noir, les différents corps techniques, personne ne...
tout le monde tire pour lui. Le mec classique, de la lumière, ouais. Il va tirer pour lui, c'est normal. Le type du son, il va tirer pour lui. Dès qu'il y a une vache qui pète, il jette son casque par terre. Je me suis dit, non ! Mais non ! Bah, c'est ridicule. Bah, tu vois, c'est... Mm-hmm. Moi, ça m'apparaissait par exemple ridicule.
Ouais. Qui mange des M&M's ?
Non ! Et la scène où il jette son casque. Il faut parler à tous les acteurs. Là, tu te rends compte que moi, nous, on venait du théâtre.
Ils sont des cons, hein, rappelons-le. Hein.
Exactement. Nous, on était ultra, on était ultra disciplinés parce qu'on faisait, on venait du théâtre et surtout de notre théâtre à nous. Donc, il avait fallu être très modeste et discipliné. Là, on voyait arriver des acteurs qui ne savaient pas une broque de texte et qui, objectivement, n'en avaient rien à foutre. Pas tous, mais certains. Après, même ceux qui ont bien travaillé, qui sont bien sages, bien mignons, tout à coup, ils sont perclus d'angoisse le jour même. Va passer trois quarts d'heure à faire la babysitter, alors qu'en même temps, t'as le chef-off qui te dit « Moi, je travaille plus que ce connard ouais, !» ouais. Tu deviens...
Bah, ça, c'est ce qu'on disait sur tous les projets. Voilà. C'est de la gestion humaine, 90% et
10%
humaine,
de... technique, t'as tout en même temps et à en fait, faire. Et moi, mon cerveau, je ne sais pas faire
toi,
ça.
Toi, là, tu parles du grand dimanche soir, c'est ça? Le dimanche?
Oui, oui.
Mais c'est pareil dans
oui,
tous les projets.
Oui, c'est la même c'est chose. Bien. Un projet en 3D.
Mais en fait, c'est que c'était trop lourd. Il y avait trop de monde par rapport au théâtre.
Puis par rapport à moi, mes capacités.
Oui, oui. Voilà. Mais par rapport à ton expérience.
Il aurait fallu que je sois un peu plus humble.
Vas-y, François.
Bah, y a un truc que,
envoie, François.
Il y a un truc, quand tu parles, je pense à quelque chose te concernant. Je pense que peut-être que la difficulté de la gestion humaine, tout ça, a été accentué par le fait que c'est d'abord le fait que tu n'as pas su peut-être le voir en image parce que tu l'avais écrit pour le théâtre et que l'écriture...
Non, je ne l'ai pas écrit pour le théâtre.
Bah, ton histoire.
Bah, du tout.
Ton histoire, okay. Ton truc,
on avait deux pièces de théâtre les gens nous tannaient pour qu'on fasse un film pour des très mauvaises raisons, hein, pour faire de l'argent. Nous, on s'est dit, ah, c'est rigolo le cinéma, ça nous changera du théâtre. Et on a dit, par contre, on n'adapte pas nos pièces.
Oui, c'est
pardon, j'ai cru que c'était une adaptation.
On a écrit un scénario.
C'était
encore une autre histoire. En tout, avec ces trois personnages féminins, on a écrit une histoire où elles ont pris 10 ans.
D'accord, pardon.
On a pris des filles de 30 ans.
Oui, mais il y avait quand même un truc facilité de.
Il y avait un lien avec les pièces.
Les personnages existaient
les
déjà.
Les trois principaux.
Et vous les connaissiez.
Sauf
très
qu'on
bien.
Les mettait dans un environnement qui n'était absolument pas le même. On était à la campagne au lieu d'être à la ville. Mmh. On faisait surgir des personnages.
Vous aviez déjà fait les deux pièces.
Oui.
Ouais.
Donc, non, mais ce que je veux dire,
c'est quand même déjà très bien vos personnages.
Mais ça, oui, mais ce qu'on faisait nous, ce qu'on fait nous dans le film, c'est pas mal. C'est très cohérent avec.
Tous les autres, ils sont mieux.
Mais non, ils sont très bien. Mais par contre, nous, c'était pas notre métier de les faire.
C'est
un métier, c'est compliqué. Et quand t'apprends ça. Ça fait comme un dépucelage à la tronçonneuse, quoi.
Ouais, mais et du coup, ça tente pas du tout, là, de en ayant connaissance de tout ça, en ayant du recul là-dessus, de retenter une réalisation, un truc, tu vois, de retransformer, pas forcément,
moi, la culpabilité,
même pourquoi pas d'ailleurs Pénélope, tu vois.
La culpabilité
le
que
refaire,
j'ai ressentie.
Le refaire.
Non, j'ai eu l'impression de voler là. Enfin, je sais pas. Alors, Dieu sait que ce film il a pas coûté cher ni rien, mais moi j'ai eu la sensation de prendre la place de gens qui la méritaient plus que moi. Enfin, je me suis raconté.
Ça, faut arrêter ça.
Oui, d'accord. Ouais. Mais moi, je me suis quand même raconté beaucoup de merde dans les années qui ont suivi. Et puis les gens, ils y sont allés aussi à.
Ah, ils aiment bien, oui.
Mais ça, on s'en fout, ça.
On s'est bien fait dégeler, quoi. Oui, mais tu sais, quand t'as une estime de toi qui est pas hyper bien installée, solide.
Là, vraiment, la dernière chose à faire, c'est de compter sur les gens. Pour rebâtir ton estime de toi.
Mais,
qu'ils n'ont pas le
masque. À l'époque, je ne savais pas.
Ça. Aujourd'hui, tu es quand même plus solide là-dessus.
Je ne sais pas.
Dit-elle en pleurant.
Non, mais oui, parce que je suis pas solide. Je suis plus solide parce que je m'expose le moins possible.
Mais après, moi, je trouve...
Ah,
quand
François
même... Oui, parce que je n'avais pas fini ce que je voulais dire.
Oui.
Je trouve que Juliette... C'est alors, bon. Je ne sais pas, parce que j'ai à la fois pas vu ta pièce, je n'ai pas vu ton film, mais je vois comment tu écris aussi pour la radio. Et... Je pense que non, justement. Et tu as une écriture, mais le théâtre se rapproche de la radio dans ce sens où en fait l'action passe beaucoup par les dialogues. Et je pense que vous avez écrit, il y a énormément de dialogues dans votre pièce, et que le passage au cinéma, c'est plus du tout la même écriture. On a l'impression que c'est la même chose parce que c'est un scénario, il y a des dialogues, mais en fait
mais
ça n'a plus rien
tout,
à voir.
Tout,
c'est comme la série télé. En fait, l'action passe par le dialogue et en ce sens, le théâtre et la dramatique radio et la série télé sont très proches. Alors que le cinéma, c'est complètement autre chose.
C'est pour ça que certains acteurs sont très bons au théâtre et mauvais au cinéma.
Et inversement.
Ouais.
Bah après, bah, aussi...
ça dépend beaucoup des metteurs en scène aussi.
Non, mais je pense pas.
Ça dépend des metteurs en scène, ça dépend de comment tu imprimes ou pas la. Il y a des gens qui impriment ou pas l'image. Il y a des acteurs de théâtre, par exemple, qui sont invraisemblablement bons, et puis tout à coup, ils passent au cinéma et
c'est moyen,
ils sont pas mauvais, mais par contre, ils impriment pas ou ils ont pas les rôles assez. Ils n'ont pas de rôle assez grand pour la grandeur de leur art.
Gérard Depardieu ?
Quoi ?
Non, vraiment pas. Lui, c'est l'inverse.
Non, il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, parce qu'on a l'impression de le faire croire que c'est hyper compliqué. Quand même, la clé, c'est de faire des trucs que tu aurais envie de voir ou de lire ou d'entendre. C'est comme ça, en fait, que tu peux... Je pense qu'il n'y a que comme ça que tu peux te rendre compte
de
ce que tu fais.
Oui, mais sauf qu'à un moment, dans un tournage d'un film, comme c'est beaucoup de prépa. Après, tu as beaucoup de gens.
Ouais, pendant le tournage, tu peux pas. Mais au montage, surtout.
En fait, tu perds de vue à plein d'endroits les raisons pour lesquelles tu es en train de faire ça. Et tu sais plus, moi, si le soir quand je rentrais et que je pleurais dans mon oreiller, en me disant je suis une merde, et ben, j'aurais donné n'importe quoi pour attraper une crise de calcul néphritique et être emmenée pour au moins 4 mois loin de l'endroit où
j'étais. Non, mais je vois totalement, Juliette. En revanche, je sais que tu te sous-estimes totalement là-dessus.
Non,
tu te sous-estimes vachement. Parce que en réalité, t'as vraiment une capacité, et on le voit chaque dimanche quand on fait l'émission, où t'as un truc un peu 180 degrés, je sais pas comment on dit, mais où tu vois un peu tout ce qui se passe et t'arrives à jongler entre le jeu de tel truc, ensuite l'enchaînement.
Oui, mais c'est pas ma responsabilité. C'est Charline qui est en responsabilité et c'est François qui se cogne toute la responsabilité de faire vivre les uns avec les autres.
Oui,
donc
oui,
moi, j'ai pas peur et donc je peux ne pas être...
T'as l'impression que t'es un peu monotâche, mais en réalité, t'es quand même multitâche quand tu fais...
Quand j'ai la sensation que ça repose pas sur mes épaules.
Voilà. Mais c'est pour ça, je suis persuadé que tu pourras réaliser une bête de film, parce que si t'es bien entouré
c'est avec qui tu travailles aussi,
si quelqu'un,
si les gens font mon travail, moi j'arriverai, je ferai, bah, c'est bien,
qu'il y en a pas mal qui font ça,
qui enlève la charge mentale de
mais est-ce que c'est pas ça réellement, être un réalisateur, une réalisatrice,
je crois qu'il y a beaucoup de réalisateurs différents.
Tu peux le faire par étapes aussi, d'abord te concentrer sur les images, parce qu'en plus toi t'as vraiment le regard sur un œil, enfin tu vois, t'as un truc esthétique où t'as une obsession là-dessus, donc tu peux te concentrer d'abord sur les images, ensuite développer les autres trucs avec d'autres réalisations. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de réalisateurs démarrent en faisant d'abord les séries de TF1, tout ça, pour se faire la main sur certains trucs avant de se lancer sur leur projet à eux.
Et ben ça, c'est un truc, tu vois, par rapport à ce que disait...
En fait, t'apprends la mécanique en faisant les séries de TF1, tout ça.
T'apprends une mécanique.
Oui.
Mais... Moi, je me souviens de quand j'étais jeune, quand j'avais 18-20 ans, je t'en avais parlé, il y avait eu une école de cinéma qui arrivait de là-haut des pays du Nord et qui s'appelait le Dogme.
Ah oui.
Vous vous souvenez pas ?
Non, ça me dit rien.
Bon, si, en gros, c'est une bande de mecs dont Winterberg et l'autre cinglé, là, Lars von Trier, bon, allez, plein le cul du cinéma, papa. Vraiment, comme ça. Donc, dorénavant, ils avaient fait un dogme en 10 points et de comment, eux, ils allaient faire des films. Donc, en tout prise de son réel, personne n'est... personne n'est pro.
Okay.
On raconte que nos histoires et rien en dessous de tel budget, et vraiment le budget c'était rien, donc en gros à l'époque s'il y avait eu des iPhones, tout le monde aurait filmé à l'iPhone, et ils nous ont prouvé, puisque Winterberg et Lars von Trier sont devenus des killers, que c'était possible de faire du cinéma autrement, et je sais pas pourquoi, je devine pourquoi mais le cinéma semble avoir oublié qu'ils l'ont fait, qu'ils ont prouvé. Et on est revenu à nouveau. Et puis après, il y a le iPhone qui est arrivé. Et là, il y a eu des vrais grands réalisateurs comme Soderbergh qui a réalisé un film complet à l'iPhone j'ai vu au cinéma, qui est invraisemblablement bon. Et donc, ça devrait donner... Ça serait bien que les gens le sachent, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire du cinoche. Il y a besoin de beaucoup de voir en image. Il y a besoin d'aimer ça. Mais
et de se sentir autorisé à le faire. Contrairement à ce que dit Aurel San, qui dit pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc.
Celui qui s'habille en Dior.
Oui, lui.
Ouais. Donc il dit quoi, lui?
Pour faire un film, faut avoir besoin d'un truc qui filme.
Ouais.
Oui, mais non. Et qui s'appelle Orio, la sociologie. Bourdieu, si tu nous écoutes.
C'est hyper simpliste. Ouais. Et toi, François, quand tu as réalisé ton premier court-métrage, c'était quand ton premier court-métrage d'ailleurs ?
C'était en 2011.
En 2011.
2011.
Donc comment ouais. tu t'es lancé, toi, là-dedans ?
Alors moi, alors, je suis né en 1979.
Oui,
non, c'est pas
oui,
vrai.
Oui.
En fait, comment je me suis lancé ? Je vais pas refaire tout le parcours, mais à un moment, je me suis aussi autorisé...
Dans la réalisation, je parle.
Dans la réalisation. Comment je me suis lancé dans la réalisation ?
C'était vraiment la question. Très précisément, avec ces mots-là.
Comme une boule de boule.
Mais non, mais parce que et c'est comme
c'est
une boule de...
Piège, de
non,
de
billard,
comme
pas
Corinne
de bowling.
Charby.
Non, de billard. Eh ben, Corinne Charby, non. Mais Eddie Charby, mon producteur, oui.
Mais non.
Mais si.
Il s'appelle Eddie Charby ?
Il s'appelle Eddie Charby.
Ça répond toujours pas à la question.
Eh bien si, parce que c'est lui qui m'a un peu autorisé, qui m'a fait découvrir l'écriture. J'ai écrit et puis j'ai voulu réaliser. Et en fait, je suis d'abord devenu comédien pour pouvoir réaliser. Enfin, tout a été un truc parce qu'il a fallu que je me sente légitime parce que j'avais fait des choses, j'avais essayé des choses. Je ne savais pas diriger un acteur. Je n'arrivais pas à mettre en image ce que j'avais dans la tête. Et pour le coup, j'avais des images dans la tête. Je savais à peu près ce que je voulais. Mais le résultat était pourrave, et notamment dans la direction d'acteur. Et comment ça va parler un acteur. Et puis après, je suis devenu acteur parce que je pense que j'avais aussi envie d'être acteur. Bref.
Attends, c'est pas deux choses totalement différentes, là, l'aspect diriger l'acteur et l'aspect vraiment, on parlait d'image que tu as dans la tête et que tu veux retranscrire.
Non, parce que l'image, pour moi, c'est pas juste un cadre avec une image à l'intérieur. Pour moi, le cinéma, c'est,
il non, faut... c'est l'enchaînement de ces cadres-là. Non.
Même avant l'enchaînement du montage des cadres qui racontent une histoire, chaque plan, pour moi, il faut qu'il soit plein de plein de choses et pas juste une esthétique. Ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est, en tout cas, ça doit être, c'est le comédien, même si je vais pas filmer le comédien, mais en tout cas, et ça doit transparaître dans l'image, c'est l'émotion, c'est l'histoire que véhicule le comédien qui, en tout cas, m'intéresse. Au-delà de l'histoire, ça j'écris le scénario, je sais quelle histoire je veux faire, tout ça, mais dans la, comment je crée la vie, et en tout cas comment je crée la justesse et la vérité du truc, c'est il faut que le comédien trouve quelque chose, okay. Je
et,
sais pas quoi.
Et donc comment t'as compensé ce manque de communication avec, enfin de
bah, je suis devenu comédien, avec... j'ai joué à la comédie, ah, j'ai appris ce que c'était, j'ai adoré,
ouais.
Et mon premier film, dedans, à part Sophia Ram, que j'adore. Oui, mon premier film, il y a Sophia Aram, mon premier rôle. Eh bien, tous les autres étaient de mon cours de théâtre. Tous les autres comédiens. Mon premier rôle, sauf le petit garçon qui est Enzo Tomasini, qui a joué après dans Babysitting, tout ça, qui est un super comédien. Et en fait, et parce que je les ai pris, parce que je connaissais par cœur et je savais quoi leur dire pour obtenir ce que je voulais, et dans un truc de bienveillance, hein, pas de manipulation et tout.
Ouais. Non, non.
Si, si. Non, mais.
Moi, je juge toujours un
non, mais quand ouais, on dit. Je veux, quand le réalisateur dit je veux obtenir quelque chose de l'autre, t'as toujours une connotation de.
Manipulation.
Oui, tu vois, tu veux obtenir, donc tu prends quelque chose. Non. Je savais comment leur parler, donc voilà. Voilà comment j'en suis venu à faire ce film-là.
Si, ben, moi, je suis à fond. Moi, je pense à fond. Au contraire, que c'est un exercice qui. Souvent, en plus, il n'y a pas le temps, il n'y a jamais le temps pour rien. Tu ne fais pas tout de cinéma. Voilà, donc, très, très rapidement, ça devient de la manipulation.
Il faut te faciliter la tâche. Faut des
oui,
gens
qui... à des moments, tu es obligé. Mais tu peux manipuler sans.
Gentiment. Hein.
Non, mais sans faire du mal particulièrement.
Mais ça fait du mal de toute façon à partir du moment où. Moi, c'est pour ça que le dogme, ça m'avait super intéressé. C'est
comment
que...
ça ? Pourquoi manipuler nécessairement ? Je ne comprends pas.
Tu peux parce pas, que c'est, tu peux un, pas. En c'est fait, un endroit de domination. Le plateau
tu
de cinéma.
Tu choisis des comédiens ou des comédiennes pour un truc qu'ils sont capables de faire. Donc tu leur demandes de faire. Pourquoi manipuler pour leur faire faire ?
Parce qu'il y aura. Alors, la manipulation, elle arrive très très vite parce que tout coûte cher. Chaque minute de cinéma coûte cher parce que tu as, je sais pas, 20
personnes. Le comédien en est conscient aussi.
Mais le comédien, il est le premier à en être conscient, à part quand c'est devenu une star et qu'il a le droit d'arriver avec 2 ans de retard et tout ça. Mais sinon, le comédien de base,
Fabrice Tuchin,
celui que... Mais pas seulement, enfin, pas seulement.
Non, je plaisante,
mais
je plaisante,
c'était gratuit.
Enfin, en plus, j'en sais rien, moi.
Non, non, j'en sais rien,
bref,
je pense pas.
La majorité des acteurs qui vivent chichement de leur art, ils le savent bien, donc ils sont terrorisés parce que... Ils arrivent les derniers sur la scène, donc on met en place les rails, on met en place la lumière, le décor, et à la fin on leur dit, bon bah alors toi, regarde bien, entre là et là, et ne bouge pas comme ça, parce que sinon... Et délivre l'émotion que je veux et tout ça. Et là, il n'y a plus de temps, en fait, parce que toutes les gens du film sont en train de penser à la séquence qu'ils vont installer après. Donc en gros, tout le monde commence à te regarder de la sorte.
Là, il y a du jugement.
Elle va y aller, Catherine Deneuve, non ? Si, elle va y aller. Tu vois, donc ça te fait monter. Et oui, c'est de la manipulation à un moment, parce qu'il faut leur obtenir... métier, en fait. C'est le métier de qui ?
Bah, de se mettre là, sur le scotch, de ne pas tourner la tête de ce côté-là.
Sauf qu'il y a une toute petite part, il y a une toute petite part qui n'est pas, que tu peux appeler métier si tu veux, mais qui est une petite part un peu particulière avec ce métier, c'est qu'on te demande de sortir des émotions. Voilà, des choses qui sont ultra intimes. Tu vois à peu près de quoi on parle.
Les émotions, j'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu parler.
Mais rappelle-toi quand t'étais sur scène, Ramzi. T'étais dans une situation de fragilité. Parce que la plus grande angoisse des êtres humains, c'est d'être jugé négativement par d'autres êtres humains.
Exactement.
Alors, pour le coup, sur scène, non. Mais parce qu'il y avait 12 personnes dans la salle, que des amis, donc non.
Ah, c'est les pires, hein, parfois. Hein.
Ouais.
Non, et on les a retrouvés.
J'ai eu un bon,
ils vont juger ta performance.
J'ai eu un bon retour.
Donc oui, il y a de la manipulation. Et c'était aussi pour ça que le dogme, c'était passionnant. C'est que c'était un autre rapport. C'est-à-dire, si tu passes au Kärcher l'idée même d'un plateau de tournage de cinéma, si tu réduis tout au minimum, si tout devient léger, si tout le monde participe, les acteurs aussi, à la technique, ils sont capables de changer de poste et que tout fait passage, alors tu pètes vraiment l'idée même du cinéma, enfin l'idée économique et le modèle viriliste, hiérarchique, et fasciste qu'est un plateau de cinéma. Ouais, ouais, bah pardon, je ferme à Adèle Haenel, mais quand j'avais lu sa lettre dans Télérama, mot pour mot, ce qu'elle écrit, à mes yeux, ça n'est pas exagéré. Voilà. Non seulement c'est réfléchi, mais en plus c'est vérifiable.
Alors je pense que t'as raison, et je pense que c'est une solution de facilité, donc en fait c'est beaucoup comme ça. Mais je pense que tu peux vraiment faire autrement, et en fait, je pense que... savoir diriger, ça s'apprend, ne serait-ce qu'en jouant, en vivant ce que vit le comédien, et qu'on peut faire autrement. Enfin, en tout
moi,
cas.
Moi, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est, moi, ce que j'ai vu. En
c'est
tout
une
cas,
espèce de feignantise, en fait.
C'est pas ça qui. C'est pas ce système-là qui a installé. Le cinéma, que tu fasses de la télé, la moindre merdouille à la télé ou un plateau à 50 bars. En gros, pardon, mais c'est exactement la même organisation qui fait vraiment penser à un truc entre le Moyen-Âge et le néolibéralisme. C'est nul. Franchement, c'est nul. Rien n'est jamais remis en question. C'est sans doute le milieu le moins déconstruit de la Terre, de toutes les manières possibles.
Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais on peut essayer de faire autrement.
Mais ça n'empêche pas de faire des très beaux films. Et alors toi, Guillaume, si tu faisais un film, tu ferais quel film ?
Ben, moi, je trouve qu'on se fait un peu piéger peut-être par le mot « diriger », parce que c'est pas tellement...
Déjà, c'est pas terrible. Ouais.
C'est pas terrible, mais j'avoue, j'aime bien, moi, du coup, « diriger », parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Non, mais j'aime bien la pédagogie, par exemple. Et je pense que dans pas très longtemps, je ferai un petit atelier de théâtre et tout. C'est ça, j'aime bien. Parce que j'aime bien...
Pardon ? Tu vas monter un atelier de théâtre ?
Ouais, je pense, mais je sais pas, dans 4-5 ans, tu vois. Ce que j'aime bien.
J'aimerais tellement. On aura le droit de venir prendre des cours.
Ah, mais de ouf. Parce que je l'ai fait au cours Florent, j'étais assistant en improv, donc j'ai fait ça pendant un an.
Mais qui va donner les cours ?
Moi ?
Ah !
Mais
moi,
tu
je
viendras.
Trouve ça trop bien.
Tu
viendras. Moi, je trouve ça trop bien.
Et en vrai, j'aime bien.
Moi, je postule.
Non, mais je plaisante. C'est parce qu'on se moque de Guillaume, de son jeu en permanence. C'était juste à la blague.
Mais y a des, ça n'a rien à voir. Tu peux être vraiment un très mauvais acteur et un très bon prof.
Et on embrasse Fabrice Fucchini.
Francis Huster, pour le coup, c'était un bon exemple. parce que c'est un endroit où tu mets en confiance les autres plutôt, puisque comme on disait, t'es dans une situation de fragilité quand t'es sur scène, l'idée c'est de les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent délivrer le meilleur truc. Et c'est pour ça que les profs de théâtre, il y a toujours un espèce de truc un peu gouroutisant. Et les très bons profs, là on va rejoindre la manipulation, ils te font sortir des trucs de toi-même que tu pensais pas capable.
Tu sais, donc
tu fais,
putain,
je savais pas,
c'est
personne m'a mis en confiance de ouf. Et donc, j'ai envie de te sucer. Non,
mais
là, je vais trop vite.
Pas tellement envie de te sucer, mais peut-être je vais le faire. Parce que de toute façon, j'ai la bouche ouverte d'admiration.
Ouais, il y a de ça. Donc évidemment, il y a une distance à mettre, etc. Mais j'aime bien cette idée-là. J'ai vu la transformation, j'ai vu ma transformation à moi avec un très bon prof de théâtre. J'ai vu la transformation des autres avec un très bon prof de théâtre. Qui avait dit, mais peut-être que je lui avais raconté dans le premier épisode, il avait dit au début de l'année, moi je suis pas là pour vous apprendre à jouer, je sais même pas comment on fait, par contre je peux faire de vous des acteurs et des actrices intéressants. Et ça, je trouvais
ça passe par quoi?
Développer ta singularité, puisque que ça qui est intéressant chez un artiste. En gros, quand tu vas voir Cyrano de Bergerac, a priori, tu connais la fin, tu vas pas tomber sur le cul, tu connais la tirade d'aîné, etc. Et ce que tu vas voir, c'est comment la personne que tu vas voir sur scène interprète la chose, par le biais du metteur en scène, etc. aussi.
Et est-ce qu'elle se verbalise à un moment ?
Une singularité.
Est-ce qu'elle se verbalise à un moment ta singularité ? Parce qu'à un moment, il te dit, enfin, toi, tu prends conscience, ma singularité, c'est telle chose.
Non, non, ça passe toujours par le questionnement. Et il faisait un truc que je trouve pédagogiquement assez balèze. À chaque fois qu'on passait une scène, avant même de dire c'est bien, c'est mal, rentre à jardin ou à cour, il disait pourquoi ? Pourquoi t'as choisi cette scène ? Et honnêtement, moi, j'y connaissais rien, je venais de débarquer. Des fois, c'était, on avait un module, c'était les tragédies dans Shakespeare. Vraiment, je savais pas. Et ça m'obligeait à me questionner sur pourquoi finalement j'avais, parce que je les avais lus et j'avais quand même choisi une scène. Et dans ma tête, je me disais, je l'ai pris au pif. Et or, non, c'est pas vrai. J'avais quand même fait un choix et il est obligé à te questionner. Et une fois qu'il avait la réponse, il pouvait te diriger. Ah, qu'est-ce que tu veux montrer ? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette scène ? Ah bah si c'est ça, on va bosser pour que ça ressorte. Pour l'instant, on voit pas. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, ouais.
Et ça me paraît pédagogiquement hyper intéressant.
Mais c'est parce que
et ça développe la singularité de la personne plutôt que de calquer sa singularité sur quelqu'un.
C'est là que c'est pas de la manipulation. Alors, c'est là que c'est pas de la manipulation. C'est-à-dire à partir du moment où tu impliques les gens intellectuellement dans la découverte d'eux-mêmes.
C'est ça en fait.
Il y a ce risque de la manipulation de la secte. Et de tout ce qui va avec, tous les abus possibles et imaginables, tu vois à peu près à quoi je fais référence, en fait, il s'arrête à partir du moment où tu es en responsabilité. Et un vrai bon prof, dans n'importe quelle matière, mais alors dans le théâtre, c'est évident, il te fout les rênes dans les mains. C'est pas lui qui t'a mis un mort comme ça et qui te fait faire des cabrioles, c'est toi.
Mais même
je sais pas, j'ai du mal parce que j'ai l'impression que, en réalité, Ça ressemble quand même beaucoup à une vraie manipulation, dans le sens où on te fait croire que ça vient de toi.
Mais ça vient de toi ? Personne t'a obligé à t'inscrire à un cours de théâtre, t'a obligé à prendre telle scène.
Il t'a obligé à choisir une scène. En fait,
ils te disent, parce que la thématique de l'année, c'était un par trimestre, je crois, c'était.
Ils te demandent de choisir une
les
scène.
Les tragédies de Shakespeare. Tu choisis la scène.
Non, ils te demandent de choisir une scène.
Oui, il faut passer 3 minutes, tu ne vas pas faire toute la pièce. Mais c'est toi qui choisis la scène, c'est là que ça devient intéressant.
Mais peut-être.
Mais en quoi c'est de la manipulation, ça, par exemple ?
Là, pour le coup.
Non, mais en fait, je trouve que le processus global d'essayer de faire ressortir quelque chose qui est enfoui en toi ressemble à un processus global de manipulation.
C'est pas un truc enfoui en toi.
Et c'est pas une question de. Non. Il va pas aller chercher, par exemple, tes vieux traumas, c'est pas du tout ça.
Là, par exemple, il avait pas conscience, il avait pas réalisé qu'il avait choisi la scène. Il pensait qu'il l'avait choisi au pif. Et finalement, c'est une scène.
Mais ça s'est pas enfoui. J'avais juste à enlever une demi-peau morte et ça faisait comme ça.
Effectivement.
C'est pas révélé, c'est enfoui. Ce que je veux dire par là,
c'est qu'il va pas. Non, je chipote pas parce que c'est l'entièreté de.
Enfoui, c'est juste que c'est masqué, que c'est pas à la surface. Et c'était pas à la surface parce que tu le savais pas.
Oui, mais enfoui, ça inclut une idée de profondeur.
Ouais.
Ouais.
Et que c'est compliqué.
Après, ça peut être enfoui sous ça. Et enfoui sous.
Là, on est sur vraiment de la mauvaise foi. Je dis rien depuis tout à l'heure. Mais là, il fait un débat de mauvaise foi.
Il n'empêche qu'il révèle quelque chose qui n'est pas à la surface, si vous voulez.
Mais est-ce que c'est pas le taf de tous les professeurs possibles et imaginables ? Moi, j'ai une mère prof. Je l'ai vue sans arrêt quand tout à coup, elle avait décidé qu'elle allait sauver un élève, quoi qu'il. Et souvent, quoi qu'il, ça voulait dire malgré lui, elle trouvait, je la voyais, démultiplier les solutions pour arriver à ce que le gamin se rende compte qu'il avait de la valeur.
Tu ne mets pas les personnes au service de toi, tu te mets au service des personnes.
Ouais, mais
et ça, c'est passionnant.
Moi, c'est juste que le processus ressemble beaucoup à un processus de manipulation. C'est le même processus qu'utilisent les manipulateurs pour te faire croire que ça vient de toi.
Ah bah oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est dangereux.
Oui. C'est exactement ça.
Mais dans manipulation, il y a aussi de la manipulation positive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dessein de faire de mal à l'autre.
Non, manipulation, ça ne peut pas être positif, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est ça le problème. C'est que manipulation, ça ne peut pas être positif.
Sauf chez le kiné.
Voilà.
Et encore, ça dépend du kiné.
Tu peux pas. Et trop souvent, t'entends effectivement les réalisateurs et les réalisatrices, parce que moi, j'ai vécu avec des femmes aussi, qui parce qu'elles n'ont pas le time. Elles estiment qu'elles n'ont pas le time, donc elles vont faire la chose la plus opérante, la plus efficace, et elles s'en foutent de toi dans l'état dans lequel tu seras après à la fin de ta journée ou à la fin de ta vie.
D'ailleurs, souvent, il y a des metteurs en scène, des réalisateurs et tout, qui te jouent les répliques. pour que tu refasses exactement la même chose.
Ouais.
Parce qu'ils veulent ça, ils n'ont pas le temps, etc. Donc
ils
ça, il
n'y
a rien
temps.
De pire. Et j'ai vu des profs faire ça. Et ça n'a aucun intérêt pédagogique.
Non.
Et là, pour le coup, si tu es vraiment un mauvais acteur, c'est encore pire.
Bah, surtout que tu n'arrives pas à le faire, parce que si tu n'es vraiment pas bien bon, tu es un peu sourdingue. Et donc, tu n'arrives pas à reproduire
non,
ce
non,
que tu
ça
viens
d'entendre. Ça n'a pas d'intérêt.
Non.
Donc, ouais, la pédagogie m'intéresse. Et ce que vous appeliez la direction d'acteur, ouais. Après... La réalisation, pour l'instant, ça me... Ah, de docu, si. J'ai plein de projets de docu.
Ouais.
Mais la réalisation de docu, je trouve... Oh, remarque, je sais pas. J'allais dire, c'est pas la même chose, mais si, peut-être un peu quand même. Au final, tu racontes une histoire, quoi. Tu cherches le meilleur moyen de raconter ton histoire. Et...
Ouais. Comment tu diriges un orque ?
Une orque.
Une orque.
J'espère qu'il faut, qu'on les dirigera le moins possible. Comme ça veut dire qu'elles seront libres, qu'elles seront plus dans les delphinariums. Sauver Willy.
Parce que les documentaires animaliers, pour le coup...
Ah, il y en a des...
Il y en a beaucoup, en fait, c'est même pas de la direction d'animaux, c'est vraiment...
Mais parce qu'il faut raconter une histoire. Ouais. Moi, j'ai discuté avec un réel de doc animalier qui me disait, bon, voilà, je retourne en Alaska parce qu'on suivait une famille, une maman ours avec ses petits. Et je dis, ils ont dû grandir quand même depuis l'année dernière. Et puis, qu'est-ce qui ressemble plus à un ours blanc qu'à un autre ourson d'ours blanc ouais. Donc, c'est pas les mêmes,
triche.
Etc. Bien sûr. La sagesse de la pieuvre, il y a au moins 12 pieuvres dans le bordel.
C'est ça,
mais c'est pas grave, au final, ça fait une histoire.
C'est pas grave. Moi,
sauf que le documentaire.
Par exemple, j'ai montré la sagesse de la pieuvre à mon neveu. À l'époque, il avait 10 ans. Donc, on s'est retrouvés à pleurer comme des veaux, et lui et moi. On était vraiment.
C'est efficace, bien raconté.
Voilà. Quand j'ai appris que c'était pas. Moi, j'y connais rien, documentaire animalier. Mais comme celui-là m'a vraiment profondément troublée, et que j'ai décidé de plus jamais manger d'encornets, et potentiellement plus d'animaux, je me suis renseignée. Et là, je me disais, mais c'est quand même bizarre comment il a pu se filmer. Enfin, après, tu remets les choses.
Oui.
Moi, je ne suis pas un enfant, donc forcément, je me pose certaines questions. Je trouve ça compliqué que ça ne soit pas écrit avant.
D'accord.
Tu sais, de la même manière qu'avant n'importe quelle fiction, il y a écrit les faits ne sont...
C'est hyper intéressant, parce que ça, c'est une phrase que j'aurais pu dire, alors que là, aujourd'hui, je m'en fous un peu. Mais il y a encore plus sordide, mais ça sort un petit peu du podcast, mais les photographes animaliers, il y a un vrai sujet.
Ouais, je sais, parce que moi, j'en suis plein sur Insta. Et
t'as des trucs
tu vois
de
qu'ils
ouf.
Sont pas les mêmes méthodes. Et il y en a qui disent très clairement, faut pas faire ça, quoi.
Les mecs, carrément, c'est des animaux empaillés. Hein. Les grenouilles, ils les foutent dans le frigo. Et après, donc elles sont mortes, justement. Et après, ils les manipulent, tu vois, qu'ils prennent la photo sur une fleur, mais t'as...
Ils les manipulent, comme les profs.
Vous êtes les grenouilles.
Tu prends, tu mets ton élève dans le frigo, il est mort, tu le sors, tu le mets sur le plateau, et il te fait Shakespeare.
Il y avait un mec qui avait chopé un prix, un truc assez prestigieux de la photo animalière, et ils se sont rendus compte quelques années après que c'était dans un zoo. Il y a un mec qui a reconnu le rocher, qui a dit... Je crois que c'était un fourmilier. C'était pas un ours, en tout cas, c'était un fourmilier... qui vont bouffer les fourmis. Et il y a un mec, je ne sais plus combien de temps après, qui a fait. Mais en fait, c'est au zoo, je ne sais pas quoi, ils ont recoupé. Il a reconnu un vieux rocher dans un coin. Bon, le mec ne sera plus jamais publié nulle part. Il y a des trucs sordides, ouais.
Il ne faut pas faire ça, surtout que les documentaires animaliers, souvent, la cible, c'est les enfants. Donc,
oui, mais alors pour revenir à ta sagesse de la pieuvre, bon, il y a un vrai sujet parce que. C'est pas assumé comme une fiction, c'est ça que tu veux dire ?
Bah oui.
Et pourtant, à quel moment tu peux pas croire que c'est... Est-ce que c'est vraiment assumé comme un documentaire ?
Bien sûr.
Ouais, ouais.
Enfin, en tout cas, peut-être que mon neveu et moi, on est aussi convaincus l'autre, mais nous, on l'a vécu si on pleurait.
Tu t'es senti un peu floué, quoi. Tu t'es dit, merde.
Je me suis dit pas floué, parce que de toute façon, je trouve le film très bien. Et je pense que c'était important et que
ça t'aurait gâché de savoir avant que...
Non, au contraire, ça m'aurait mis dans des vrais. Non, je me serais sentie traitée comme une personne adulte. Moi,
là, t'as été manipulée.
Je ne veux pas faire ça non plus, moi, un enfant.
Là, t'as été manipulée.
Je préfère dire à Hugo. Ouais. Alors voilà, tu sais, c'est un mec, il a un vrai amour des pieuvres et donc il a décidé de faire ce truc sous cette forme-là.
Oui, c'est un conte un peu.
C'est un conte. Mais moi, je l'aurais vendu comme ça, Hugo. Là, je lui ai menti en toute bonne foi. Voilà, j'aime pas ça.
Moi j'ai discuté.
Vincent... Je veux bien lui mentir, mais quand je sais que je lui mens.
Ouais. Vincent Munier, là, qui a fait La Panthère des Neiges et tout, qui lui, pour le coup, il a une éthique de dingue et tout. Il m'a dit j'ai regardé un quart d'heure et j'ai arrêté, quoi. Lui, il a les codes, il fait oui, d'accord, bon.
Bah oui.
Ça, c'est la pieuvre numéro 8.
Je trouve ça pas cool.
Voilà. C'est un conte, quoi. Ça s'entend. Je l'aurais pas fait non plus.
Si on est à l'heure de. On est à moins 2 avant la fin du monde et il faut que les gamins ils soient ultra au courant de.
Oui, je
suis. Fais un podcast sur l'écologie là, c'est ça, non ?
Oui, c'est
la saison 2. Là, on est dans la fabrique. Hein. Là, c'est comment tu fabriques un documentaire, une fiction, comment tu racontes une histoire.
Oui. totalement.
Ouais. Bah ouais.
Ah, si, si, sur la manipulation. Bah, des photographes. Bah, là, oui. Des photographes, oui, oui.
Des spectateurs,
des réalisateurs, tout, le monde. Tout ça, quoi, des profs de théâtre.
Mais alors, tu peux dire aux enfants que tous les docus animaliers. Bon, il y a sûrement des exceptions, mais.
Même Daktari.
Même la famille de Suricat. Même la famille de Suricat, là,
c'est pas sur France. Vous voyez pas ce que c'est que
Daktari ?
Je suis vieille à ce moment-là.
C'est le lion. C'est le lion.
Oui, qui louchait, oui. Laurence.
Bah, je connais bien, c'est ma famille.
On va expliquer. Non, on va pas expliquer.
Non, on va pas expliquer.
On exclut l'auditeur.
On exclut totalement l'auditeur. Et ben, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Merci Guillaume.
Merci Guillaume.
Merci Guillaume. Merci
les amis. Il y aura 3 peut-être.
Ben, s'il y a une saison 3, ça
m'étonnerait. Il y aura une saison 3, ça a cartonné.
Ça m'étonnerait. On te retrouve où ?
Eh bien, le grand dimanche soir.
C'est quoi ?
Une émission réalisée demain de maître par François Audouin. Wow. À la rédaction en chef, Ramzi Assadi. Mmh. Chronique et dramatique. Chronique dramatique. Juliette Ardant.
Oui, tous les dimanches 18h, 20h,
ouais,
sur France
Inter. Tournée avec deux spectacles, avec Maurice spectacles. 2027 et Vers l'infini,
ah,
mais
oui.
Pas au-delà, avec l'astrophysicien Eric Lagadec sur le thème de l'infini.
Ah mince, on aurait pu en parler un peu.
Ah ben, on fera un 3.
Et donc, il y a 4 bouquins qui sortent cette année, 2 documentaires, un en préparation.
Non, je prépare un podcast. Ah. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous demander les références des micros.
Et non, il y a ton podcast.
Oui, Mission Poséidon. Ouais, sur Mission Poséidon, France Inter.
Dispo sur toutes les plateformes. Un podcast plutôt sympa. Donc,
3T vraiment... dans Télérama.
Mais je crois que tout le monde a 3T maintenant.
Ah bon ?
Ouais, il me semble.
Je crois que même La Fabrique a 3T.
Ouais.
Non.
Non.
Il y en a 8. Je les ai rajoutés au stylo.
Eh ben, merci beaucoup.
Ben,
merci Juliette.
Merci pour l'invitation.
Merci Ramzi.
Et on se retrouve merci, bientôt Juliette. Pour un
avec qui
épisode.
C'est qui le prochain invité ?
Mystère.
Ah, Jean-François Mystère. J'adore.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.